Il est 23h30 à Paris et Kinshasa, 22h30, temps universel.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Quadio.
Bonsoir à toutes et à tous. Retour sur le naufrage d'une baleinière dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Le bilan encore provisoire fait état d'au moins 40 morts et une centaine de disparus. Récit d'un responsable de la société civile locale à suivre dans un court instant. Inquiétude sur des mouvements de militaires russes de la Syrie vers la Libye. Des rotations d'appareils russes avec du matériel ont été observées. Information à prendre avec prudence, prévient Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Cyclone dévastateur, sécheresse intense, inondation meurtrière. Madagascar est sans conteste l'un des pays les plus menacés par les effets du changement climatique. Alors comment limiter les effets de ces événements extrêmes? Élément de réponse à suivre. Et on commence par une nouvelle tragédie dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Une embarcation surchargée a fait naufrage au port de Lolo dans le territoire de Ligandé. Le bilan provisoire fait état d'au moins 40 morts et une centaine de disparus. Retour sur les faits avec Joseph Bayoko Lokondo, membre de la société civile locale.
Ici, dans la province de l'Équateur, nous avons connu un naufrage. La baleinière s'appelait Mama Weti. Il y a des disparus et les recherches continuent sur le terrain. Cet accident s'est opéré à plus de 160 km du chef-lieu de la province, donc la ville de Mbandaka, et la rivière Lulonga, un affluent du fleuve Congo. Jusqu'à la preuve du contraire, aucune autorité, même locale là-bas, même provinciale, n'a pris une mesure pour récupérer le corps. J'ai entré en contact avec les survivants aujourd'hui qui passent nuit à la belle étoile au niveau des Lolo. Les corps sans vie qui ont été repêchés sont enterrés par la population. Il n'y a pas d'équipe de secours. Ce sont les villageois qui se sont organisés pour essayer de continuer à retrouver les corps sans vie.
Un propos recueilli par Wely Diallo. En restant en République démocratique du Congo, où les affrontements entre l'armée appuyée par les milices Wazalendo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda se sont poursuivis ce dimanche. De violents combats dans le territoire de Lubero. L'armée a engagé pour la première fois des hélicoptères. Les positions rebelles ont été bombardées sur l'axe Mambasa-Nduta, à plus de 150 km au nord de Goma. Ces combats d'une grande intensité ont duré toute la journée, selon des sources concordantes. En République démocratique du Congo, toujours, clarification du ministère de la Santé sur l'épidémie qui sévit actuellement au Kwando, dans l'Ouest. Les tests effectués sur place suggèrent un syndrome de paludisme grave qui s'ajoute à une détresse respiratoire, détresse dont l'origine n'est pas encore formellement identifiée. Le dernier bilan a fait état de près de 600 cas recensés avec une létalité de 6,2%. Une équipe de Médecins sans frontières est arrivée sur place. Emmanuel Lampert, le directeur pays de l'Organisation République démocratique du Congo, au micro de Pauline Azidi.
On a pu le lire tous, maladie inconnue, maladie mystérieuse. Revenons aux bases. Le principal tueur dans ce pays reste encore le paludisme. Le paludisme sur un fond de malnutrition chronique, sur une saisonnalité d'infection respiratoire aiguë, mais surtout au sein d'un système sanitaire qui peine à se relancer, à se reconstruire. Certes, il y a des belles initiatives avec la première phase de la couverture sanitaire universelle, mais est-ce qu'elle atteint les populations au fin fond des provinces, au fin fond du forêt équatorien? Et ce n'est qu'une première phase. Donc l'ensemble des efforts doivent toujours être là, et surtout revenons aux bases et à la connaissance qui est là depuis des décennies sur les principales tueurs et mettons en place les bases des programmes de réponse qui sont connus et qui ne sont pas mystérieux du tout.
Emmanuel Lampart, le directeur pays de MSF en République démocratique du Congo, sera l'invité Afrique ce lundi matin sur notre antenne. Depuis quelques jours, la rumeur d'un transfert de militaires russes de la Syrie vers la Libye inquiète certains observateurs internationaux. Au lendemain de la chute du régime de Bachar al-Assad, effectivement, des rotations d'avions de transport russes avec du matériel ont été observées. Des vols à destination des territoires sous contrôle des forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Quelques jours plus tard, le Premier ministre d'Union nationale, Abdulhamid Dbeiba, déclarait que l'arrivée de nouvelles troupes russes sur le territoire national serait inacceptable. des informations à prendre avec prudence, selon Hasni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Les seules informations à disposition sont les informations émanant de Rome et bien sûr les déclarations du chef du gouvernement libyen, le gouvernement de l'Union nationale, M. Dbeiba, qui avait déclaré qu'une présence accrue russe sur le territoire libyen est perçue comme une menace. Donc si le chef du gouvernement lui-même n'est pas en mesure de confirmer cette information, c'est très difficile pour nous de dire si vraiment des unités militaires russes se sont déplacés de la côte syrienne, exactement de Tartous et de Hmeymin, en direction de la Libye. Mais on sait que les Russes ont essayé à maintes reprises de construire une base navale à l'est libyen et n'ont pas réussi. Mais ils ont des positions militaires très importantes dans la partie qui est dirigée par M. Haftar. Mais difficile dans un court temps de remplacer les deux bases militaire en Syrie, d'autant plus que la Russie n'a pas encore manifesté son souhait de quitter les bases actuelles en Syrie.
Un propos recueilli par Paul Lorgerie. 32 morts, c'est le nouveau bilan des mouvements de foule survenus samedi au Nigeria lors de distribution de denrées alimentaires. Alors que le pays connaît l'une de ses pires crises économiques, avec notamment pour conséquence une forte inflation des denrées alimentaires justement. Selon la police, au moins 10 personnes ont péri à Abuja, la capitale fédérale, et 22 autres à Okidja, ville de l'état d'Anambra dans le sud, lors de ces bousculades meurtrières. Le président Bola Tinubu avait annulé tous ses rendez-vous officiels en hommage aux victimes. Madagascar, je vous le disais, sans doute l'un des pays les plus menacés par les effets du changement climatique. Cyclone dévastateur de plus en plus fréquent dans l'est et dans le nord, sécheresse intense récurrente dans le sud, inondations meurtrières dans le centre ou encore montée des eaux sur les côtes, comme vous allez l'entendre, à Saint-Augustin, dans le grand sud malgache. Alors comment limiter les effets de ces événements climatiques extrêmes ? Élément de réponse avec Sarah Teto, qui a pu échanger avec l'une des figures de proue de la jeunesse militante et combative en matière d'environnement.
En 12 ans de métier, ces deux pêcheurs ont observé des changements indéniables sur leurs côtes.
Avant, il y avait beaucoup de poissons. On capturait environ 50 à 60 kilos par jour. Ça remplissait quasiment tout le bateau.
Ces dernières années, la météo a changé. La mer est souvent très agitée, ce qui nous empêche de jeter nos filets.
Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 2 ou 4 kilos.
Les gens ont d'ailleurs dû déplacer leur maison.
Pour ces pêcheurs, les impacts sont réels. Anzaradwar Inirin, activiste environnementale et coordinatrice nationale de l'Alliance AIKE, encourage cependant la population malgache à ne pas se considérer uniquement comme victime, mais à agir, coûte que coûte, même à son petit niveau.
Quand on parle du changement climatique, on pense que ça se joue à une échelle qui nous dépasse, à l'échelle internationale, où on parle de politique, de financement, mais en fait, ça doit se jouer à notre échelle, puisque tout le monde est acteur.
Éduquer les enfants, les sensibiliser pour Hans, c'est la clé de voûte pour des effets positifs en chaîne.
Je suis convaincue que c'est en transmettant l'amour pour la nature à nos enfants, à nos voisins, que nous contribuons à changer les choses. Un enfant ne peut pas respecter l'environnement s'il ne sait pas nommer les animaux dans la forêt. Donc moi je dis, un des petits gestes que tu peux faire déjà, c'est éduquer ton enfant à aimer l'environnement, à aimer le fait de vivre dans un lieu qui soit salubre pour qu'ensuite, ils vont aller réclamer ça adulte. Et ça, ça va être le normal et pas ce qu'on est en train de vivre actuellement.
Mais ce que la jeune femme encourage surtout, c'est de cesser d'être défaitiste. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Enfin, en football, suite du deuxième tour des éliminatoires du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, on fait le point sur les résultats des matchs allés de la journée avec Salio Diouf.
Il n'y a pas eu énormément de buts, mais tout de même, le Soudan du Sud s'est imposé face au Rwanda sur le score de 3-2. L'autre Soudan a battu l'Éthiopie à l'extérieur 2-0. La Côte d'Ivoire s'est imposée face au Burkina Faso sur le même score, c'est-à-dire 2-0. Pas de but entre le Ghana et le Nigeria, 0-0. Match nul aussi entre le Libéria et le Sénégal, 1-1. Même score entre le Togo et le Niger. La Mauritanie a battu le Mali 1-0. Et ça s'est fini il y a plusieurs minutes. Le Cameroun s'est imposé face à la Centrafrique lors d'une rencontre délocalisée en Côte d'Ivoire. Le score 1-0. Et pour rappel, la Zambie est automatiquement qualifiée car le Mozambique est forfait au vu du contexte politique dans ce pays. Le début des matchs retour, c'est à partir du mercredi 25 décembre, jour de Noël. Et les rencontres retour s'achèveront le 29 décembre prochain.
Salut Diouf sur RFI.